Merci. Bon, j'imagine que vous devez commencer à être un peu fatigué. C'est un des écoles d'inter... Oh là là, on est à la fin là. Je vous remercie. Quand même pas à ce point-là. C'est un des écueils de parler en fin de journée. L'autre est que je vais revisiter, bien entendu, des questions déjà débattues, mais je vais apporter un éclairage un peu différent. On m'a demandé de parler, vous le voyez, des modèles de la prévention et des normes de santé. C'est la première fois que je présente ce sujet, donc je vais m'appuyer sur mes notes, vous m'en excuserez. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais vous me baser sur les modèles tels que présentés par Jean-Pierre Dozon, qui est anthropologue et qui a défini quatre modèles de prévention. Le modèle dans lequel nous baignons actuellement, c'est le modèle contractuel de la prévention. Ce modèle vise principalement des facteurs de risque de contracter une maladie. Il repose sur le développement des sciences biomédicales au cours du XXe siècle et principalement sur l'épidémiologie, les processus d'identification des facteurs de risque, également sur le développement des connaissances en génétique. Et tout ça nous amène donc à proposer des messages de prévention, des normes comportementales à la population, à des sous-groupes de celle-ci. En fait, le modèle contractuel fait de chacun d'entre nous un porteur de risques, des risques divers qui vont nous amener à contracter toute une série d'affections. Et chacun d'entre nous, citoyens, a une espèce de contrat, un contrat encore implicite à ce jour, qui nous engage à nous prémunir de ces affections. Les États en Europe occidentale, on le sait, ont travailler à définir un droit à la santé à travers des systèmes de sécurité sociale qui sont plus ou moins performants, plus ou moins équitables. Et maintenant, tout doucement, s'implante une nouvelle exigence qui est celle d'un devoir de santé. On attend du citoyen moderne qu'il soit rationnel, qu'il soit responsable, qu'il intériorise les messages de prévention et qu'il adopte des normes comportementales de vie saine. Alors on l'a déjà dit aujourd'hui, certains qualifient cette utopie d'homo medicus, d'autres de patient sentinelle. Chacun d'entre nous est ainsi censé devenir un agent actif du contrôle de son alimentation, de ses métabolites sanguins, de sa tension artérielle, de ses consommations diverses de psychotropes, etc., etc. On peut passer à la diapositive suivante. Je crois que vous êtes un peu trop loin. Le modèle contractuel repose sur des arguments peu critiquables. D'une part, on peut dire qu'il y a un juste équilibre entre devoir de santé et droit de santé, entre ce qui est du ressort des gouvernants et ce qui est du ressort des gouvernés. Un autre élément en faveur de ce modèle, c'est qu'il y a une recherche, un partage du bien commun, car outre le bénéfice individuel que nous pouvons tous retirer du fait que nous prenons une position d'homo medicus, d'être rationnel, on contribue également à l'intérêt général parce que on attend de cette attitude une diminution des soins de santé, des frais de soins de santé. Enfin, on doit aussi constater qu'il y a dans la population en général une attente certaine d'une maîtrise des risques. J'ai repris ici, vous pouvez passer à la suivante, un extrait d'un exposé d'Antoine Lazarus il y a quelques années, c'était à l'époque où on parlait de la vache folle. Ce qui est neuf, c'est de penser que si on a un accident, cela n'aurait pas dû arriver. Pourquoi? Non pas parce que le destin n'aurait pas dû vous faire ça, mais parce que les hommes auraient dû être organisés et responsables de telle sorte que cela ne nous arrive pas. L'extension de ceci est évidemment le principe de précaution, mais que je ne vais pas aborder ici. Maintenant, on peut opposer au principe de précaution, au modèle contractuel des limites certaines. Je pense qu'on n'est pas à la bonne diapositive. Non, vous pouvez remonter. Elle a disparu. Extraordinaire. Ce n'est pas grave. Oui, c'est un ordinateur français. Donc, le modèle contractuel, il se base sur un idéal de rationalisation des comportements qui fait l'impasse sur la complexité de l'être humain. L'être humain qui est doté de sentiments, d'angoisse, d'ambivalence, qui est mu par la recherche du plaisir. Ceci explique d'ailleurs que de nombreuses personnes, vous le savez tous, choisissent un peu à la carte dans toute le menu d'actes préventifs qui leur est proposé. Il y a une assez large prise de conscience des limites de ce pari, même des experts. On va voir la diapositive suivante, merveille. J'ai extrait d'un rapport d'une mutualité belge, c'est donc un rapport d'experts, où on dit clairement l'hypothèse d'un patient parfaitement informé, acteur éclairé de sa santé, capable d'opérer les choix pertinents tant sur le plan de la qualité que des coûts des soins, ne tient pas la route. Alors pour illustrer l'aspect aussi irrationnel des comportements, j'ai repris les paroles d'une chanson d'un artiste de chez vous. Le temps passe toujours trop vite, nos amis, souvent les plus chers, les meilleurs, sont partis. Parfois dans la nuit, on ne sait plus très bien qui on est, où l'on va. Parfois l'angoisse nous prend le cœur. Et par rapport à ce mal-être existentiel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sort, on commande un steak frites, un bon gros steak frites. Vous allez me dire que je n'ai pas choisi par hasard, mais... Et donc, d'autre part, on rejette aussi, vous voyez, la révolte, ce poisson grillé, ces haricots verts, ces oméga 3, etc. Alors, autre élément, de limite du modèle contractuel, c'est qu'il est gros producteur de normes, mais je ne vais pas aborder ça maintenant, nous y reviendrons plus tard. C'est aussi un modèle qui promet beaucoup, et sans doute trop, car il n'est jamais basé que sur des probabilités. Il a une tendance, je dirais, naturelle à travestir la réalité, car dans ses excès, il tend à faire à croire que nous pouvons éviter la survenue de la maladie, de l'accident ou de l'événement. Pourtant, on sait bien que les données scientifiques sur lesquelles repose ce modèle ne sont que des probabilités, et les personnes qui adopteraient les comportements prescrits ne disposent pas d'une garantie absolue de santé, nous le savons tous. En ne fumant pas, on risque moins d'avoir certains cancers, on risque moins d'avoir une infection cardiovasculaire, mais on n'est pas du tout à l'abri pour autant. On reste toujours mortel, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, nous devons tous mourir un jour. Alors, les implications à long terme de ce modèle, on peut rester sur la diapositive précédente, les implications à long terme de ce modèle ne sont peut-être pas bien intégrées par tous. En effet, si la société nous incite à vivre selon les préceptes de la vie saine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle est prête à accueillir une multitude de vieillards en bonne santé, qui de toute façon deviendront dépendants, auront des maladies terminales, etc., et donc coûteront des pensions, des soins de santé, des aides, des hébergements, etc.? Une autre réflexion, c'est que notre société est vectrice de valeurs comme le jeunisme, la performance, ben est-ce qu'elle est prête à laisser aux vieillards en bonne santé, comme nous promet de devenir, une place entière dans la société, avec ce que cela inclut de respect, d'utilité sociale, etc. Je veux dire, à travers cet exemple-là, que les avantages et les implications de ce modèle mériteraient vraiment un débat, et pas rien qu'un débat d'experts, mais c'est une vraie question de société. On peut passer à la suivante. Alors, les conséquences de l'application du modèle contractuel ne se limitent pas aux citoyens. Nous sommes, nous aussi, concernés comme professionnels dans notre métier. Ça, nous n'en sommes pas toujours encore conscients. En fait, nous devenons des gestionnaires de risques. Mais jusqu'où on doit aller dans la gestion du risque? Et c'est une question que je vais illustrer par un exemple. En Belgique, il y a un consensus assez bien établi parmi les professionnels en matière de prévention du suicide. Il s'agit d'être écoutant, d'être disponible, de prêt à donner une aide à la demande, voire, mais là c'est déjà discuté, d'être proactif dans la proposition d'aide. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter il y a peu de temps avec un responsable belge du centre de prévention du suicide qui m'a parlé de l'entretien qu'il a eu avec des collègues canadiens. Eh bien, au Canada, les intervenants ont, semble-t-il, un devoir d'intervention lorsqu'il y a une suspicion de risque suicidaire. Ils vont sur place, l'ambulance va sur place et intervient. On voit par cet exemple que le curseur peut évoluer entre obligation de moyens, obligation de résultats, d'une part, et d'autre part, entre une intervention d'aide et une intervention de contrôle du comportement à risque. Cela pose quand même quelques questions. Maintenant, j'ai abordé le premier modèle. Si ce modèle contractuel est dominant, il n'a pas pour autant éliminé les modèles précédents, un peu comme Éric Breton avec les différents modèles qu'il a cités. Donc, le modèle pastorien que vous connaissez est toujours bien actuel. Il est lui aussi basé sur les avancées de la science biomédicale. On peut passer à la suivante. Il se résume à une triade que vous connaissez bien. Un germe, une maladie, une vaccination. Ses succès sont évidents. Il a permis d'éradiquer la variole de la planète, il a permis de contrôler toute une série de maladies infectieuses. Ça reste une approche actuelle, une approche moderne. Ça garde un vaste champ de développement futur avec des vaccins possibles contre le paludisme, contre le sida, etc. C'est donc un modèle que l'on peut qualifier de performant. Et il a rencontré une large adhésion dans la population. Il a aussi éveillé quelques résistances, mais on doit bien reconnaître que ces résistances n'ont guère handicapé. Un autre point assez fort de ce modèle, c'est qu'il représente à la fois un projet de protection individuelle et un projet de protection collective. Je dirais que son seul bémol, c'est sa simplicité et l'usage qu'on fait de cette simplicité. C'est un modèle linéaire, une cause, une maladie, une solution, et ça séduit facilement les esprits parce que c'est facile à comprendre, c'est vraiment très séduisant. Il fait fi de la multifactorialité, de la complexité, du contexte aussi, et il faut donc certainement s'en méfier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que l'on peut éradiquer un comportement tout comme on peut le faire de certaines maladies infectieuses. Alors, un autre modèle toujours actuel, merci, c'est le modèle de la contrainte profane. C'est un modèle qui a été appliqué dans toutes les sociétés. Il se traduit par des mises à l'écart, des enfermements, la ségrégation et aussi l'édiction d'obligations légales. Les individus atteints de certaines affections, que ce soit d'ailleurs des maladies contagieuses, aussi bien que des comportements qui sont considérés comme asociaux ou déviants, sont rejetés, isolés, pour qu'ils ne contaminent pas. On utilise aussi pour qu'ils ne polluent pas de la société. Alors ce modèle a ses partisans, tout comme ses opposants. J'ai repris ici un extrait de « Santé publique et droits de l'homme » de Mann. La santé publique est un bien social. À ce titre, elle fait partie de l'ordre public et constitue un motif légitime de limitation de certains droits. Pour les opposants, on n'a qu'à se rappeler ce qui s'est passé l'année dernière avec la grippe A H1N1 2009 et toutes les discussions qu'il y a eu autour des mesures proposées. Dans notre société, la tentation de recourir à la contrainte est une réalité. J'ai repris encore une fois un extrait d'un exposé d'Antoine Lazarus. Notre peur, parfois légitime, du risque pourrait nous faire désigner toute personne, tout groupe, tous ceux dont la vie ou le mode de vie viendrait déranger la sécurité collective, comme un facteur de risque négatif, comme les ennemis de la société sans risque. Au titre de la légitime protection de l'intérêt sanitaire collectif, ces personnes, ces groupes, seraient alors condamnés pour faire disparaître le risque, pour faire disparaître la peur. Appartiennent à ce modèle les léproseries, les lazarets et tous les autres cordons sanitaires. Si le modèle de la contrainte profane s'est en apparence adouci vers le 19e siècle, il s'est aussi diversifié. Sans entrer dans les détails, on peut rattacher à ce modèle les débats sur l'instauration d'un test obligatoire de dépistage du sida, les restrictions à la circulation ou isolement de personnes dans le contexte des grippes aviaires et de la grippe pandémique, etc. On peut aussi inclure dans ce modèle des dispositifs légaux comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors ce modèle, il peut être performant, mais je crois moyennant certaines conditions. Bon, l'illustration saisissante, on en a assez parlé au cours de la journée, c'est l'acceptation par une majorité de citoyens de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais cette acceptation est le reflet de la réussite de ce qu'on a mis en place, un long processus de dénormalisation du tabac et le renversement des normes sociales liées au tabagisme. Un autre exemple, ce sont les bénéfices de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Mais dans ces deux cas, l'obligation est venue dans un contexte où on avait déjà travaillé sur l'acceptation par le plus grand nombre de la mesure. Par contre, l'édiction d'obligation et d'interdiction à contre-courant des normes sociales est souvent vouée à l'échec. On n'a qu'à se rappeler les tentatives de prohibition de l'alcool. Dernier modèle que je vais aborder, c'est le modèle magico-religieux. C'est, je dirais, l'ancêtre des modèles et l'ancêtre de la prévention tout court. Basé sur un univers de croyances, de rites, ce modèle fait appel malgré tout à la rationalité puisqu'il tente d'expliquer l'événement, d'expliquer la maladie. Mais évidemment sur des bases qui n'ont rien à voir avec les connaissances scientifiques. Qu'est-ce qu'on y classe ? Eh bien les pratiques divinatoires, la confection d'objets de protection comme les fétiches, les totems, etc. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je dirais que la place actuelle de ce modèle est réelle. Il y a encore actuellement des pratiques d'astrologie, de voyance. Certaines sectes religieuses font des offres de soins, mais de manière plus large, je dirais, dans ses excès, le discours de la prévention biomédicale édicte aussi un nouveau catéchisme, un culte de la santé avec des proscriptions, des prescriptions, auxquelles certains individus, d'ailleurs que ce soit des professionnels ou des profanes, tentent de manière obsessionnelle de répondre. Je vais passer maintenant aux normes de santé. Je vous l'ai dit, le modèle contractuel actuel est un très gros producteur de ces normes. Qu'est-ce qu'une norme ? Pour faire simple, une norme sociale, c'est un comportement prescrit à un moment donné par une société. Les normes, on l'a déjà abordé, sont généralement implicites, intériorisées par les individus. Les normes reflètent les échelles de valeurs en vigueur dans un groupe social. Bon, je n'ai pas le temps d'aborder l'aspect, je dirais, de relativité historique des normes, ni les rapports entre normes sociales et juridiques. Pourtant, il y a pas mal de choses intéressantes à en dire. Le non-respect d'une norme sociale peut entraîner la réprobation, car la norme entraîne la déviance. Vous voyez ici, j'ai repris un texte de Laurent Micheli. Pour qu'une situation de déviance existe, il faut que soient réunis trois éléments, l'existence d'une norme, un comportement de transgression de cette norme et un processus de stigmatisation de cette transgression. Alors que se passe-t-il avec une personne hors norme ? Si elle est rejetée, elle peut se marginaliser. Sur le plan personnel, le non-respect de la norme peut se traduire par un sentiment de culpabilité. C'est ainsi que certains endossent le rôle de victime. On devient un fumeur honteux, victime d'une addiction qui nous transcende, qui nous isole dans une singularité de malade qui a besoin d'aide. On sait aussi que l'être humain dispose d'énormes capacités d'adaptation à ce que son environnement social attend de lui. Ainsi, une personne qui est perçue comme déviante et objet de stigmatisation peut, selon certains, entrer dans une carrière de déviant. On devient par exemple un fumeur révolté, qui ne rate pas une occasion de griller une cigarette en public et en soufflant sa fumée à la face du monde. Autre chose intéressante, c'est que La notion de norme sous-entend aussi celle de pouvoir. La norme est acceptée par le plus grand nombre, mais elle est aussi imposée par lui ou par la loi. Et face au pouvoir, des personnes peuvent entrer en résistance. Et certains le revendiquent fièrement. Et voilà un exemple que j'ai pris sur le site d'Allegro Fortissimo, qui est une association de personnes en surpoids et obèses. 17 personnes, tout d'autouron, on dirait 8000 oursons. La norme n'est que la loi du plus grand nombre. Moi, je ne suis comme personne et j'assume. Il y a quelqu'un à qui ça pose problème. Sur le même site, on trouve d'autres choses, comme des réflexions. Quel est l'intérêt de savoir que les Français sont plus grands et plus gros qu'il y a 36 ans? Eh bien, pour adapter leur environnement. Voilà quelqu'un qui a compris la promotion de la santé. Seulement, il voudrait disposer de sièges plus larges dans les transports en commun. Alors ici, après, j'ai repris quelques réflexions de Marianne Prévost, qui est une sociologue et qui travaille en Belgique à la Fédération des maisons médicales. Elle s'est intéressée à ces groupes de personnes qui entrent en résistance. L'article initial est appelé « les A-normaux se rebiffent ». Et alors, elle relève des choses très intéressantes. Si la norme est la loi du plus grand nombre, que deviennent les minorités telles que les plus gros ou les sourds et maintenant les fumeurs? Et quand les minorités, contre la tyrannie et la norme, revendiquent leur identité, où est la légitimité de la santé publique et de ses recommandations? Plus loin, autre idée, réflexion intéressante, lorsque les résistants racontent leur trajet personnel, on comprend qu'ils ont conquis une pensée et une parole, là où d'autres plus démunis subissent l'exclusion dénoncée dans la honte et le repli sur soi. Alors conquérir une pensée, une parole, on est bien là dans ce qu'on essaye de développer dans la citoyenneté, et donc je trouve que c'était vraiment intéressant. Diapositive suivante. Une autre réflexion intéressante, la tension entre liberté individuelle et bien collectif amène certains à les opposer. C'est très classique. Mais les résistants eux-mêmes ne font pas cette erreur. C'est bien en se regroupant qu'ils espèrent faire entendre leur singularité. Et les obèses identifient des facteurs externes qui renforcent leurs difficultés, le marketing des produits alimentaires, les faux régimes, les pilules miracles. Ils réclament des mesures réglementaires. Ils demandent en quelque sorte plus de santé publique. Je reviens à notre rôle en tant que professionnel, en tant qu'expert de santé publique ou de promotion de la santé. Alors, dans les éléments qui suivent, je constate, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Nous sommes à la base de la prescription de normes sociales de santé. 5 fruits par jour, se brosser les dents, etc., etc. Au nom de la santé sont prescrits de bons comportements, tout comme au nom de la morale ou de la religion. J'ai repris ici un extrait, on a déjà parlé de lui tout à l'heure, de Patrick Peretti-Watel et de Jean-Paul Moati dans Le principe de prévention. La prévention est une entreprise morale, vouée au culte de la santé et fondée sur la notion de risque qui elle-même a une dimension idéologique forte. En nous exhortant à changer le mode de vie, j'essaye d'aller trop vite, Omar, tu vois. Mais aussi de changer notre rapport à nous-mêmes et aux autres, la prévention véhicule implicitement une nouvelle hiérarchie des valeurs. Nous devons nous souvenir que les normes produites par les experts entrent parfois en opposition avec les normes de santé profanes, les savoirs populaires. Les domaines de l'alimentation et des soins aux bébés regorgent d'exemples. Nous souvenir aussi que les normes scientifiques peuvent évoluer. Elles ne sont pas validées une fois pour toutes. Elles évoluent au gré des connaissances scientifiques, pour être provoquant, pour dire de certains modes. Bon, ici j'ai emprunté cette image à un dépliant de l'INPES. C'est un dépliant de prévention de la mort subite du nourrisson. Si on avait fait ce dépliant il y a 25 ans, la Croix-Rouge aurait été sur le dessin à droite et pas à gauche. Alors, l'autre exemple, je ne vais pas résister, je voulais vous le montrer pour illustrer que les techniques et les arguments de persuasion, eux, par contre, ne changent pas tellement. Vous remplacez ici maladie sexuelle par papillomavirus humain et syphilis par cancer du col de l'utérus, et vous aurez une argumentation que certains n'ont pas hésité à utiliser récemment, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Alors, deuxième point, nous sommes à la base de la prescription de normes sociales, nous contribuons aussi à renforcer un devoir de responsabilité. Nous plaçons le citoyen dans une approche égocentrée, nous prenons une forme d'individualisme. Et les dérapages du devoir de responsabilité, ils ne sont pas très loin de nous. Il y a 2 ou 3 ans, je lisais dans la presse, le premier ministre britannique lie le droit aux soins au devoir de responsabilité. Les personnes qui n'adopteraient pas une attitude responsable vis-à-vis de leur santé risquent de perdre leur droit aux soins. On peut dire que c'est un virage très impressionnant quand on se souvient que, à la base du système de santé nationale britannique, il y avait une notion d'accès universel aux soins. Enfin, troisième point, par notre adhésion, nous cautionnons des méthodes d'action sur les comportements. Puisqu'on m'a parlé du rapport CASS, je dirais que la question de l'usage des nouvelles connaissances en neurosciences pour influencer les modes de vie, je crois qu'elle mérite certainement un débat. Il y a une question quand même à approfondir au niveau des limites acceptables quant aux moyens mis en œuvre pour convaincre le citoyen d'adopter un comportement de prévention. Et vous savez très bien tous les principes sur lesquels ça repose, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice, etc. En guise de conclusion, puisqu'on m'a demandé de poser des questions aussi, je vais en évoquer quelques-unes. Puisque le thème de la journée tourne autour de vouloir changer les comportements, je vais dire d'emblée que l'action sur les comportements individuels a pour moi un sens, si elle est intégrée dans une approche plus large et respectueuse de chacun. Et alors, je vais rappeler que prévenir, prévention, prévenance ont une racine commune, et ma première question est celle de la place de la prévenance dans la prévention, la prévenance avec ce qu'elle a d'attention, de délicatesse, de respect de l'autre considéré comme sujet. Je pense que ma responsabilité professionnelle doit m'amener à poser d'autres questions. Est-ce qu'on prend en compte la complexité, la multifactorialité de nombreux problèmes de santé, le rôle majeur des inégalités sociales de santé? Est-ce que l'action de prévention ne creuse pas encore plus ces inégalités? On a déjà abordé ce problème aujourd'hui. Je pense aussi que de notre position d'expert, entre guillemets, il faut inlassablement expliquer et répéter aux décideurs que le citoyen n'est pas un individu isolé dans une bulle, mais c'est bien un être humain, immergé dans une société, qui a sa culture, son contexte socio-économique, son environnement au sens large, avec les questions d'urbanisme, de logement, etc., ses inégalités. Et donc que les comportements de ce citoyen sont aussi induit par son caractère d'être social. Enfin, je pense que la prévention ne peut pas faire l'impasse sur les aspects collectifs et politiques de la santé. D'ailleurs, la promotion de la santé ne nous dit pas autre chose quand elle fait référence aux déterminants de santé, à l'action publique, etc. Et alors, on ne s'est pas concerté, mais on a la même conclusion. Je vais laisser la parole à Philippe Lecor. Donc, je ne vais pas relire ce que tu as si bien lu tout à l'heure, mais donc je reprends le rôle de la mission de l'État et du fait qu'il rate quelque chose s'il se consacre uniquement au comportement individuel. On peut passer à la suivante. Et un autre extrait de leur ouvrage « Santé publique du pied au pouvoir à la démocratie », Philippe Lecor et Jean-Bernard Paturet. « Les réponses aux questions de santé publique ne peuvent être laissées aux seuls experts, au motif que détenteurs de l'objectivité, il serait en déduire les normes de nos conduites. Les experts appartiennent à notre monde. L'expert, en tant que témoin de faits scientifiques avérés, ne peut qu'aider chacun à élaborer ses choix et sa manière de vivre. Nous sommes condamnés à la question du sens. » Voilà. Je vous remercie de votre écoute.